Radio Prague, les informations.
Le patronat tchèque rejette le projet gouvernemental de réforme du système de retraite. 10% des communes tchèques ne sont pas encore dotées de centrales d'épuration. Disparition de l'ancien ministre Eduard Janota. Lors des négociations de la commission tripartite tchèque réunissant les représentants du gouvernement, du patronat et des syndicats, les délégués du patronat ont rejeté le projet gouvernemental de la réforme du système des retraites. Selon le président de l'Union de l'industrie et des transports, Miroslav Hanák, il faut avant tout améliorer le système d'assurance retraite au niveau de l'État. Le deuxième pilier du système des retraites, c'est-à-dire l'épargne privée sous forme de fonds de pension, qui est la principale nouveauté du projet gouvernemental, est considéré par le patronat comme inutile. 10% des communes tchèques n'ont pas encore rempli leurs engagements de construire des centrales d'épuration des eaux résiduaires. L'Union européenne exige que toutes les communes de plus de 2000 habitants soient dotées de centrales d'épuration. En République tchèque, 630 communes sont concernées par ce projet. Les centrales devaient être construites déjà avant la fin de 2010. L'ancien ministre tchèque des Finances, Eduard Janota, est mort dans l'après-midi de ce vendredi. Sa mort subite a été provoquée par un arrêt cardiaque au cours d'une partie de tennis. Il était âgé de 59 ans. Pendant de longues années, il a été fonctionnaire au ministère des Finances et il était considéré comme le spécialiste de la problématique budgétaire. Au printemps 2009, il a accepté le poste de ministre des Finances dans le gouvernement intérimaire du premier ministre Jan Fischer. Les bénéfices de la filiale tchèque du groupe agroalimentaire français Danone ont baissé au cours de l'année dernière de 12% et ont atteint 176,6 millions de couronnes, quelques 7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la société a baissé de 10% et a atteint 3,4 milliards de couronnes, quelques 136 millions d'euros. 11% seulement des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête de l'agence STEM se sont déclarées contentes de la politique tchèque actuelle. 89% sont mécontents. Le théâtre des frères Forman est arrivé à Paris. L'ensemble présentera dans la capitale française le spectacle intitulé « Oblodarium ». Le chapiteau du théâtre des frères Forman sera dressé en plein centre de Paris, sur l'espace près du théâtre du Rond-Point aux Champs-Élysées. Les spectacles seront donnés tous les soirs à 21h du 24 au 2 juillet. C'est une production créée avec le soutien du Théâtre National de Bretagne, de la ville de Prague et du ministère tchèque de la Culture. Il s'agit d'une suite d'un numéro plein de fantaisie, de poésie et de mouvement. Météo. Temps ensoleillé chaud ce vendredi, fête de tous les Bichek selon le calendrier tchèque. Les températures se sont situées entre 24 et 28 degrés pour les maximales. Samedi, le ciel en Tchéquie sera nuageux variable, avec des passages pluvieux et des orages. Les températures diurnes s'échelonneront de 22 à 26 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède le micro à Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. En cette fin de semaine, cette actualité a d'abord été marquée par la visite à Prague du ministre français de l'Industrie et de l'Énergie. Éric Besson était là pour discuter de l'appel d'offres lancé pour l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelin, mais aussi pour parler plus généralement du nucléaire, un domaine dans lequel la France et la République tchèque possèdent des positions très proches et qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines suite à l'accident de la centrale de Fukushima au Japon. Et puis nous évoquerons également le cadeau que la République tchèque souhaite faire à William et à Kate, le duc et la duchesse de Cambridge, qui se sont récemment mariés en grande pompe. Il s'agit d'un cheval blanc, mais celui-ci pose quelques problèmes, comme nous vous l'expliquerons. Et puis la seconde partie de ce programme sera réservée à l'économie. Il sera aujourd'hui question de l'antivirus Avast. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. Éric Besson, le ministre français chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, a donc effectué une visite à Prague mercredi et jeudi. Outre la signature d'une feuille de route bilatérale dans le domaine nucléaire avec le ministre tchèque de l'industrie, Martin Kocourek, et sa participation au 6e Forum européen sur l'énergie nucléaire, Éric Besson a également rencontré le premier ministre Petr Nečas. L'occasion, bien entendu, de discuter de l'extension de la centrale nucléaire de Temelín, pour laquelle un appel d'offres a été lancé par le gouvernement tchèque. Le groupe français Areva figure parmi les trois prétendants à la réalisation de ces travaux, dont le montant est estimé à environ 20 milliards d'euros. Mais en République tchèque, dans un pays qui, comme la France, dispose d'une grande expérience dans le nucléaire, Éric Besson a également trouvé une oreille attentive lorsqu'il a exprimé son souhait d'un retour à la raison en ce qui concerne les tests de sûreté des centrales nucléaires de l'Union européenne. C'est ce que Éric Besson a expliqué au micro de Radio Prague. On écoute.
Nous avons dit très clairement, nous avons été parmi les premiers en Europe à dire que nous sommes prêts à soumettre toutes nos centrales nucléaires aux tests de sûreté les plus exigeants. Nous avons dit dès le début que ces tests devaient pouvoir être menés en toute indépendance par les autorités de sûreté nucléaire et que ce devait être ouvert, c'est-à-dire que des experts des autres autorités indépendantes doivent pouvoir venir regarder ce qui se fait et vérifier par eux-mêmes ce qui se fait dans notre pays. Mais nous n'accepterons pas qu'un certain nombre de responsables, y compris commissaires européens, aillent plus loin que le mandat qui a été expressément donné par les chefs d'État et de gouvernement lors de leur réunion des 24 et 25 mars. Nous disons les traités européens, tous les traités européens, mais rien que les traités européens. Ils sont extrêmement clairs. Nous n'accepterons pas de voir déstabiliser, au détriment de nos entreprises, des consommateurs et finalement des citoyens aussi, parce que nous sommes aujourd'hui persuadés qu'il n'y a pas d'alternative à court terme crédible pour un approvisionnement énergétique massif alternatif au nucléaire. En clair, tous ceux qui choisiraient de sortir du nucléaire auraient pour principale source d'énergie le charbon, le lignite, le pétrole ou le gaz, et chacun sait que c'est incompatible avec les engagements que nous avons pris en matière climatique.
Donc sur ce point de sécurité nucléaire, vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde que la République tchèque. Récemment encore, suite à l'accident au Japon, à Fukushima, la République tchèque a réitéré sa volonté de ne pas abandonner le nucléaire et a réaffirmé que la centrale, notamment de Temelín, était très sûre. C'était une réaction notamment aux craintes qui sont émises plus ou moins régulièrement en Autriche et en Allemagne.
Nous sommes sur la même ligne que la République tchèque et j'ajouterai que vendredi dernier, 25 pays de l'Union européenne sur 27 étaient d'accord pour entériner ce que avaient produit nos autorités de sûreté nucléaire. Donc ça n'est pas la position française, ni même tchèque, slovaque et française, c'est la position de 25 pays sur 27. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant que chacun revienne à ses prérogatives et que le règne de la raison l'emporte.
Concernant l'appel d'offres pour la centrale de nucléaire, y a-t-il eu des avancées? Vous avez hier annoncé que la France allait bientôt présenter le réacteur troisième génération EPR.
Nos partenaires savent que lorsqu'il y aura des appels d'offres, c'est vrai en Europe centrale, c'est vrai ailleurs, la France proposera systématiquement ses produits. Nous estimons que l'une des grandes leçons de l'accident de Fukushima, c'est qu'il faut aller vers des réacteurs dits de troisième génération et qu'il se trouve que la France est la première à avoir mis en chantier 4 EPR, 4 réacteurs de troisième génération. Nous offrirons, le moment venu, à nos partenaires cette solution, cette proposition, lorsqu'ils lanceront leur appel d'offres.
Hier, le ministre tchèque de l'Industrie, Martin Kocourek, a dit que les trois candidatures américaines, russes et françaises sont plus ou moins égales. Est-ce que votre visite ici à Prague vous a permis de familiariser mieux le dirigeant tchèque sur les atouts de la candidature d'Areva?
Je ne veux pas parler en son nom, mais j'ai écouté avec très grande attention la réponse qu'il vous a faite hier sur le sujet, parce que vous lui avez dit, au fond, chacun des concurrents a apporté quelque chose à la République tchèque, et dans sa réponse, très élégamment, le ministre de l'Industrie vous a dit que ce qu'avaient apporté les industriels français était, je cite, « au moins égal » à ce qu'avaient apporté les autres. Donc voilà, pour le reste, laissons faire les choses aux Tchèques de définir les modalités et le calendrier de leur appel d'offres. Ils savent, nos entreprises ont déjà commencé à le prouver, Areva avec la formation notamment, mais tous nos industriels ont déjà commencé à montrer leur volonté de partenariat, et la France aura une offre solide, compétitive. Ensuite, la République tchèque est un État souverain. C'est à lui, cet État, à elle, de décider.
C'était donc Éric Besson, le ministre français de l'Industrie et de l'Énergie. Il était à Prague, c'est mercredi et jeudi. La République tchèque va envoyer un échantillon génétique du cheval qu'elle a offert à William et à Kate pour leur mariage. Il s'agit d'un étalon de la race Kladruber, élevé dans le haras national de Kladrubri nad Vltavou. Plus de précision avec Alexis Rosenzweig.
Du sperme de cheval, c'est donc ce qui devrait d'abord être envoyé aux jeunes mariés que sont le duc et la duchesse de Cambridge. L'échantillon génétique a été demandé par la partie britannique en attendant que le cheval suive, d'après les informations fournies aux médias tchèques par le ministère de l'Agriculture. Ce cheval blanc est de la race Kladruber, réputée dans le monde entier et exclusivement élevée dans ce haras national situé à quelques dizaines de kilomètres de Prague, sur les bords de la Vltava. Le Kladruber est d'ailleurs depuis 2002 le seul animal classé au patrimoine culturel tchèque. Le directeur du haras de Kladruby, Jan Hutzk, précise que demander un échantillon d'ADN est une pratique courante entre éleveurs et que la famille royale britannique veut obtenir le maximum d'informations possibles sur ce cheval qui répond au doux nom de favori Alta 2130 auquel les Britanniques ont demandé de rajouter la particule de Cambridge. Mercredi, après quelques complications, le gouvernement tchèque a validé ce cadeau hippique estimé à 30 000 euros. C'est le premier ministre tchèque Petr Nečas qui a parlé des détails en conférence de presse.
Vláda dnes vyslovila předchozí souhlas k bezúplatnému převodu starokladorubského hřebce Favory Alta 21-30 královským výsostem vévodovi a vévodkyni.
Le gouvernement s'est prononcé en faveur d'un accord préliminaire pour le transport de Favori Alta 2130 pour le remettre au duc et à la duchesse de Cambridge. Sa valeur a été estimée à 30 000 euros. À la demande des majestés royales, le cheval reste pour l'instant dans le haras de Kladruby. À leur demande également, un échantillon de son patrimoine génétique sera envoyé en Grande-Bretagne. Donc une partie de cet étalon arrivera en avance.
Putuje zkumavka se specifickým genetickým materiálem do Velké Británie, čili část tohoto hřebce bude Británii s předstihem.
Vous l'entendez, quelques gloussements au cours de cette conférence de presse. Il semble que cette histoire d'échantillon a diverti les membres du gouvernement qui n'ont pas l'habitude de plaisanter, surtout depuis que la coalition gouvernementale bat de l'aile. On ne sait pas encore si cet échantillon sera congelé ou pas. Jan Hutzk précise qu'il ne pourra en tout cas pas être utilisé pour la reproduction et l'élevage, les Britanniques ne possédant pas de jument de la race pure Kladruber. Le directeur du haras indique également que l'étalon pourra être transporté dès les prochains jours, vraisemblablement en avion. Un cheval de Kladruby vient récemment d'être transporté sans problème vers les États-Unis, où il existe d'ailleurs une association de la race Kladruber.
Et c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie. Comme tous les 15 jours, place est faite maintenant à la rubrique économique. Qui n'a jamais entendu parler de l'antivirus Avast? Avec 150 millions d'utilisateurs, cet antivirus Avast est aujourd'hui l'antivirus le plus utilisé au monde. Pourtant, rares sont ceux qui savent que son siège est situé à Prague. Anne-Claire Veluire a interrogé Miloslav Korenko, le directeur du marketing de cette société tchèque mondialement connue.
Économie, commerce.
Bienvenue à Avast. Un logiciel potentiellement indésirable a été détecté. Le scan est terminé.
Et vous, qu'avez-vous sur votre ordinateur ? Ce sont les premiers mots que prononce le directeur du marketing Miloslav Korenko lorsqu'on se rend dans les bureaux de la société informatique Avast, située dans le sud de Prague. Au dernier étage de la tour tout en verre dans laquelle est installée la société, le panorama est magnifique avec une vue exceptionnelle qui s'étend du château de Prague au quartier de Žižkov. Mais ce n'est pas seulement sur la capitale de la Bohème, mais bien sur le monde entier que règne cette société tchèque fondée en 1988. Miroslav Korenko.
Avast vznikl vlastně v roce 1988.
Avast est né en 1988 avec le concours d'Edouard Kuchera et de Pavel Baudish qui travaillaient à l'époque à l'Institut de recherche d'outils mathématiques, une institution qui permettait l'accès à des ordinateurs, des petits ordinateurs personnels. À cette époque, Pavel Baudish s'est retrouvé avec un virus et il a réussi à créer un outil qui s'est débarrassé de ce virus. C'est à ce moment qu'est né Avast. C'était la première fois qu'on arrivait à se débarrasser d'un virus. La première forme de la société était celle d'une coopérative, puisqu'il était impossible de fonder une société privée sous le communisme. Puis elle a été transformée en une vraie société, c'était en 1991. Chaque mois d'avril, nous fêtons l'anniversaire de la création de la société. D'ailleurs, cette année, nous avons fêté ses 20 ans. La société telle qu'elle est aujourd'hui a donc 20 ans, mais son histoire remonte à un peu plus loin.
Každého roku slavíme už výročí, a teď vlastně to bylo 20. výročí, takže firma má 20 let jako taková, ale ty začátky jdou trošičku dál.
20 ans de succès et de croissance exponentielle, pourrait-on croire. Pourtant, Avast a bien failli disparaître au milieu des années 90. On écoute Miloslav Korenko.
V 90. letech se soustředil na to, co všichni v té době vlastně dělali, to znamená, že na bezpečnostní zařízení pro nebo zabezpečení pro firmy.
Dans les années 90, la société s'est concentrée sur ce que toutes les sociétés d'antivirus faisaient, des logiciels de sécurité pour les entreprises. Les entreprises étaient les seuls endroits où se trouvaient des ordinateurs et le peu d'ordinateurs à usage domestique n'étaient de toute façon pas connectés à Internet, puisqu'Internet n'existait pas. En 96, une crise a éclaté en Russie, une crise économique, et elle s'est propagée dans toute la région. À la même époque, des sociétés étrangères sont venues s'installer en République tchèque. Elles ont amené leurs travailleurs et des spécialistes qui utilisaient des marques de grandes sociétés, comme Symantec par exemple, ou McAfee, au lieu de petites marques régionales. Par conséquent, le marché d'Avast s'est extrêmement réduit, jusqu'à pratiquement ne plus exister, si bien que la société s'est demandé si elle devait se mettre en banqueroute ou pas.
Firma stala před rozhodnutím, jestli zbankrotovat nebo nezbankrotovat, to se vlastně dělat.
Le coup de maître d'Avast est la raison pour laquelle tout le monde connaît cet antivirus et celui d'avoir proposé une version gratuite du logiciel. La société saute le pas en 2002. Au bout d'un mois, 94 personnes avaient téléchargé la version gratuite de l'antivirus. Deux ans et demi plus tard, ils étaient 1 million. Avast, pionnier d'un modèle économique qui s'appelle dans le monde informatique le freemium, se lançait dans un pari a priori risqué. Pourtant, ce n'est pas l'avis de Miloš Korenko.
To není zas takový challenge, protože ty modely, kdy nabídnete něco zdarma...
Ce n'est pas un si grand challenge que ça. Les modèles où quelque chose de gratuit est offert, mais on reçoit de l'argent, existent évidemment. Google n'a que 5 ans, mais avant il y avait Yahoo ou AltaVista, et ils fonctionnent tous sur le même principe. Le client vient sur le moteur de recherche, il cherche quelque chose et de la publicité est projetée. Le moteur de recherche trouve ce qui était cherché et se fait payer par les publicitaires. C'est un système fantastique qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Google est une société géniale.
Pourtant, reconnaît Miloš Korenko, la question d'un logiciel antivirus est différente. La version gratuite doit contenir plus que seulement le repérage du virus. Si elle ne permet pas d'éradiquer le virus, personne ne téléchargera le programme, même s'il est gratuit. La version payante doit comporter d'autres éléments, mais pas les fonctions fondamentales. Mais c'est surtout une autre démarche qui fait la particularité d'Avast. On écoute Miloslav Korenko.
Ten druhý aspekt toho klíče úspěchu je v tom, že
Le deuxième aspect du succès d'Avast réside dans le fait que pour la plupart des sociétés qui proposent une version gratuite, cette version est un outil marketing, une base marketing. Notre approche est différente, et je le pense sincèrement, parce que nous ne considérons pas du tout les utilisateurs comme une charge, mais comme une aubaine. Nous ne les aimons pas seulement parce que peut-être à l'avenir, ils sont susceptibles de nous acheter une version payante, mais parce qu'ils nous traduisent nos logiciels. Aujourd'hui, Avast est proposé dans 36 langues, aucun autre antivirus n'est autant traduit, et ce sont les utilisateurs qui nous l'ont traduit. Deuxième chose, nous ne payons aucune publicité, parce que nous pensons qu'en offrant un bon logiciel gratuit, les gens sauront comment nous trouver.
Neplatíme si naprosto žádnou reklamu a věříme tomu, že když budeme nabízet dobrý free software, tak ti lidé si nás najdou.
On pourrait donc penser qu'Avast a un peu gardé l'esprit de ses origines, la coopérative, puisqu'elle s'appuie sur les efforts de tous pour progresser. C'est encore plus le cas avec les aspects techniques.
Další skutečnost je ta, že my v podstatě podporujeme 150 milionů uživatelů.
L'autre fait intéressant est que nous assurons l'assistance technique de 150 millions d'utilisateurs avec 27 personnes. Comment sommes-nous capables de faire ça? Eh bien parce que la plupart de l'assistance se fait sur les forums d'utilisateurs qui sont organisés par nos utilisateurs. Et ce qui est le plus important pour eux, c'est la détection des virus. Cela se passe selon la façon suivante. Quand un fichier susceptible d'être un virus est détecté sur le compte d'un utilisateur gratuit, il est envoyé automatiquement dans notre laboratoire. Chaque jour, nous recevons ainsi 15 000 fichiers de ce type. Et dans 80% des cas, ce sont effectivement des virus. L'antidote est alors envoyé aux ordinateurs de tous les utilisateurs.
Plus le nombre d'utilisateurs est grand, plus les possibilités de détecter de nouveaux virus est important. La croissance d'Avast ne semble ainsi pas prête de s'arrêter. Cependant, une entreprise qui augmente ses bénéfices de 80% d'une année sur l'autre attire forcément les convoitises. Et pourtant, même si un fonds d'investissement américain a acheté en 2010 une part de la société, les fondateurs Edward Kuchera et Pavel Baudish restent majoritaires. Il y a quelques années encore, Avast ne comptait même pas 10 employés. Aujourd'hui, ils sont autour de 150. Le succès d'Avast ne connaît pas de frontières et les utilisateurs se trouvent aux quatre coins du monde, jusqu'à 6 personnes sur les îles Pitcairn, un territoire d'outre-mer britannique qui constitue l'entité politique la moins peuplée du monde. Jusqu'à peu, c'est en France qu'Avast comptait le plus grand nombre d'utilisateurs, pour des raisons que Miloslav Korenko ne s'explique pas. Désormais, d'autres marchés se dégagent, notamment celui du Brésil, qui vient de dépasser le marché français, puisque les familles brésiliennes, avec le développement économique du pays, se dotent de plus en plus d'équipements informatiques. D'autres concurrents qui ont adopté le modèle économique d'Avast, notamment Microsoft ou MS Security Essential, sont également sur les starting blocks, mais le marché s'annonce de toute façon très prometteur, avec par exemple le développement d'Internet sur la téléphonie mobile. Et puis, fidèle à sa philosophie, Avast fait actuellement appel à ses utilisateurs pour trouver les nouvelles voies de l'antivirus. Le concours est ouvert à tout le monde et vous pourrez gagner le plaisir d'entendre votre voix annoncer les bonnes ou mauvaises nouvelles sur la présence ou non d'un virus dans votre ordinateur. Avast propose aussi d'autres concours où il y a vraiment quelque chose à gagner. Il s'agit d'un séjour, figurez-vous, dans la capitale tchèque.
Et c'est déjà la fin du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.